Rock psychédélique à l'usage de ma fille. Une émission présentée par Will Z.
Pourquoi me suis-je lancé dans cette aventure ? Était-ce parce que Camille, ma fille de 3 ans, était devenue extrêmement fan de Rob et qu'on n'avait vraiment rien fait pour ?
Camille, un frais de dos, mais un pantalon.
Mais non, pas pantalon !
Pourquoi ?
Je veux laisser un robe.
Une robe ?
Oui.
T'aimes bien, toi, les robes ?
J'aime bien les robes. Ma chérie d'amour.
C'est toi, ma chérie d'amour.
Était-ce parce qu'elle était partie dans un trip bébé et princesse alors que, pareil, on n'avait rien fait pour ? Ça en était à tel point que même quand Camille jouait avec une figurine de Hulk, le titan vert de Marvel, elle finissait par lui mettre des langes et le promener en poussette.
C'est qui ça, Camille ?
Gluck.
Gluck ?
Oui, Gluck. Il faut changer. C'est le bleu linge.
T'enlèves le linge de Hulk ?
Tu vas un nouveau linge.
Tu vas un nouveau linge à Hulk ?
Il faut changer.
Comment il s'appelle ?
Spider-Man, il est où ?
Spider-Man, c'est Peace-Dorman, c'est pas mal. Tu le changes aussi ?
Oui.
Allez, tous les super-héros à l'ange.
Toi, ils sont fait caca.
Ah. D'accord. On est peut-être dans un home de super-héros. Un home pour vieux super-héros.
Disque 1, face B. Nous voici donc ici rassemblés.
Depuis toujours, j'ai entendu parler de féminisme. J'ai vu ma grand-mère s'investir dans une association pour l'émancipation individuelle et collective des femmes. C'est très récemment, en comparant son quotidien avec celui des grands-mères de mes proches, que je me suis rendu compte à quel point la mienne était en avance sur son temps. Certes, mon grand-père n'en foutait pas une et gueulait pas mal, mais rien que le fait de refuser d'être mère au foyer et d'ouvrir son petit cabinet de pédicure chez elle était une sacrée avancée pour l'époque. Récemment, plusieurs amis, artistes, qui ne se connaissent pas, m'ont confié des moments très déplaisants. Harcèlement, menaces verbales et physiques, blagues plus que douteuses, insultes... J'ai voulu creuser davantage le sujet avec Camille, tiens donc, Wernars. Camille est une militante féministe et une journaliste, une femme brillante et inspirante qui se bat pour et avec les femmes. Elle m'a donné rendez-vous au Point Culture à Bruxelles pour une discussion passionnante.
Comme chaque fois, on fait comme si on venait voilà, d'arriver à la seconde et tout ça, on se dit bonjour et tout quoi. Camille Wernars, bonjour.
Bonjour.
Tu es une journaliste et une féministe militante, notamment au sein de Non Peut-être, qui est une organisation féministe pratiquant la désobéissance non violente. Vous organisez des expéditions durant lesquelles vous recouvrez les plaques de noms de rue ou d'amphithéâtres d'université ou les stations de métro avec des noms de femmes remarquables suite à leurs engagements, leurs découvertes, etc. Comment c'est arrivé cette idée de départ ?
Je pense que c'est une... ça vient des Françaises, des militantes féministes françaises, ouais. D'Oser le Féminisme même, qui est une organisation assez connue en France. Mm-hmm. Elles ont lancé cette idée. Et en Belgique, il y a eu un groupe de 3 femmes qui se sont réunies ouais. en 2017 en disant on veut faire la même chose parce que il y a notamment eu la sortie d'un article dans Le Soir qui parlait d'un chiffre de 4% de noms de rue qui sont des noms féminins à Bruxelles. Ouais. Ouais. Et donc du coup, ben, il y a eu avec ce chiffre une objectivisation de ce qu'on ressent quand on est dans l'espace public, qui est un espace masculin, mm-hmm. aussi par les noms de rue. Ouais. Il y a plein d'autres problématiques comme le harcèlement de rue, etc. Mais donc aussi les noms de rue. Et donc du coup, il y a eu cette idée... de renommer les noms avec ouais. des noms de femmes remarquables, des modèles féminins, parce ouais. qu'en fait on ne le sait pas, mais il y a des femmes qui ont été de tout temps peintresses, artistes, écrivaines, architectes, elles ont fait plein de choses, et en fait elles sont oubliées. Ouais. Et donc l'idée c'est vraiment d'abord de les redécouvrir, donc nous on a tout un travail de retourner dans l'histoire et d'aller voir toutes des choses que nous on n'a jamais appris, donc notre mmh. propre histoire en tant que femme. Ouais. Donc on se réapproprie cette histoire, on les découvre, on écrit des petites bios qu'on met sur le site, et à partir du site, quand on fait une action, on va chercher les femmes sur notre site, celles qu'on va mettre en avant lors des actions. Donc c'est ça, c'est tout, c'est tout le travail de la collective.
Ouais, ouais.
Et ce qui est important aussi de préciser, c'est que on ne recouvre pas les plaques, on met en dessous des vraies plaques.
Ah oui, d'accord.
On ne cache pas le vrai nom.
D'accord, ok. Ouais.
Donc, il y a aussi cette idée que c'est illégal, mais pas vraiment illégal, et qu'on ne veut pas embêter les gens qui chercheraient la rue ce soir-là, par exemple,
et
qu'ils ne la retrouveraient jamais, parce que nos plaques, elles miment vraiment les autres plaques.
Ouais.
Donc, on a repris le même modèle, et donc peut-être que de loin, ou dans la nuit, on pourrait ne pas se rendre compte qu'on vient de passer la rue qu'on cherche, quoi. Donc, mmh. l'idée, c'est pas d'embêter les citoyens et les citoyennes lambda, c'est de faire réfléchir.
Ouais.
Moi, c'est ça qui m'intéresse là-dedans, c'est qu'il y a cette idée que... on nous éduque, en tout cas en tant que petite fille, à être sage, à sourire, à accepter plein de choses. Et là, d'un seul coup, il y a cette idée de non, en fait, et on peut désobéir, on peut prendre des risques. Et ça aussi, on a l'impression que les garçons peuvent plus facilement prendre des risques, monter sur un skateboard, de se faire 1000 blessures, se casser 4 fois le bras, etc. Mais que les petites filles, c'est plutôt, bon, rester sage, jouer à la poupée et rester bien calme. Mais en fait, nous aussi, on peut prendre des risques. Donc, l'idée, c'est pas de tout casser et de, voilà, d'utiliser de la violence pour dire qu'on n'est pas d'accord, mais d'utiliser. Des moyens non violents pour montrer qu'on peut désobéir et qu'on peut faire des actions qui sont très visuelles et qui sont intéressantes en même temps, très pédagogiques et éducatives aussi en même temps.
Est-ce que vous croisez des gens pendant vos opérations et si oui, quelles sont leurs réactions ?
Certaines plaques sont mises assez haut et donc on a une espèce de balai qui nous sert à appliquer juste en dessous les nôtres.
Oui.
Mais donc comme c'est haut, on a ce balai. Et donc on se balade avec ce balai dans la rue et on a déjà eu des remarques genre venez nettoyer chez nous, vous les femmes avec votre balai. Mais c'est pas vraiment un balai, on a retravaillé mais c'est un peu la forme d'un balai.
Oui, oui.
Donc on a ce genre de remarques et sinon, ça c'est une partie des réactions. Une autre partie, c'est des réactions qui sont très soutenantes. Des femmes qui nous applaudissent, qui nous disent merci, parfois certaines qui nous rejoignent en cours de route, et des hommes aussi hein, qui disent bravo, ça existe bien sûr aussi. Donc voilà, c'est un peu les deux types de réactions qu'on a et qui sont assez intéressantes par rapport à l'espace public, à l'usage qu'on en fait.
Ouais. Alors tu organises, j'ai vu aussi des balades féministes dans Bruxelles avec un parcours sur le thème des femmes qui ont marqué la ville.
Oui, bah ça c'est Pauline dans la collective, Pauline et Agnès,
qui
travaillent là-dessus, puisqu'on est plusieurs. Vraiment en mode visite guidée, où on va dans certains lieux pour questionner ces lieux ou alors pour les mettre en avant. Par exemple, à Bruxelles, il y a la statue d'Albert Ier. Qui est au Mont des Arts, qui est sur un cheval en pierre, très conquérant. Il regarde Bruxelles parce que le Mont des Arts est sur une colline et donc il regarde tout Bruxelles. Mm-hmm. Et en fait, moi j'ai l'habitude de passer là à vélo et donc cette statue-là, je la voyais, je sais très bien qu'il est là. Mais en fait, en face, il y a sa femme Elisabeth qui le regarde lui du coup, puisqu'elle est mise en face de l'autre côté de la rue.
Mm-hmm.
Et donc elle est dos à Bruxelles, elle regarde lui et elle est toute petite et toute enchantée de le regarder comme ça. Elle est dans une pierre qui est terne. Enfin, c'est assez bizarre. Donc, il y a déjà là, dans ces représentations des deux statues, plein de choses à dire sur le stéréotype genré, sur comment on considère Elisabeth, le rôle d'Elisabeth par rapport à Albert Ier, le rôle d'une reine ou d'une princesse par rapport à un roi.
Mm-hmm.
Et donc ça, c'est la visite guidée qui m'a permis de questionner. Mais voilà, comme ça, on connaissait.
Alors, le 16 août de l'année dernière, tu écris un article sur Once Upon a Time in Hollywood, le dernier film de Tarantino, que tu vois comme le triomphe du mal alpha et un assemblage de clichés sexistes. Alors, très sincèrement, quand j'ai vu ta chronique, j'étais pas tout à fait d'accord avec ton point de vue, même si je le comprends parfaitement. Par contre, j'ai halluciné parce que j'ai vu que tu avais été cyber harcelée suite à cette chronique.
Oui, Donc on a le droit de pas être d'accord avec moi, c'est super.
Bien sûr.
C'est très très bien. Mm-hmm. Je trouve que le débat est important.
Bien sûr.
Mais justement, j'avais été voir le film en me disant, bon, c'est un blockbuster, c'est Tarantino, mais je peux aller me détendre avec un peu de popcorn. Et j'ai vraiment pris ça comme beaucoup de violence, en fait.
Oui.
Et je me suis dit, mais j'ai lu ça nulle part. Donc dans le débat, il faut aussi mm-hmm. quelque part... Et je ne m'attendais pas, effectivement, non ouais. plus, à ce qu'on ne puisse pas toucher comme ça à Tarantino, parce que des critiques qui disaient que le film était mauvais, j'en avais lu, mm-hmm. Dont Hugues Daillet de la RTBF, il n'estime pas que le film est bon, en fait,
il
en gros.
Il déteste Tarantino, bien entendu.
Oui, bon, mais voilà. Et, lui aussi a dit qu'il n'était pas bon.
Bien okay. sûr, bien
donc,
sûr.
Bon.
Bien sûr.
Donc je pensais aussi que j'allais loin,
ouais,
ouais, c'était pas
fait.
Bon.
Mais surtout que ton point de vue était intéressant, puisqu'il n'avait été abordé nulle part. Oui.
Dans le monde anglo-saxon plus, en oui. fait, donc après ça j'ai découvert,
oui.
moi en francophonie, et je pense que c'est là qu'il y a eu
oui.
Un,
oui.
un problème, c'est que j'ai pris un terme, le male gaze, le regard masculin, qui vient des théories du genre et des théories féministes depuis les années 70 aux États-Unis,
mm-hmm.
et en fait pour moi c'est une théorie que je connais bien, que je maîtrise et qui ne m'inquiète pas plus que ça, mais je
oui.
pense qu'en francophonie ça... Ça n'est pas encore percuté.
C'est ça, ouais.
Et donc, du coup, utiliser des théories comme ça, ça peut être frontal pour les gens. Et je pense que les gens n'ont pas l'habitude de lire ce genre de choses.
Ouais.
Et du coup, ben, là, c'est un autre problème. Réaction, c'est de m'insulter. C'est personnellement, donc pas l'article ou
ouais, c'est ça,
m'insulter
ouais.
moi.
Ouais.
Retrouver mon mail, m'envoyer des mails insultants, aller dans mes messages privés, sur Facebook. Enfin, c'est
ouais.
pas des endroits où, en fait, voilà, je ne suis pas d'accord avec une grande partie de la production médiatique qui parfois utilise des mots sexistes, qui parfois, par exemple, dédramatise le viol,
mm-hmm.
utilise le mot relation sexuelle. C'est jamais pour autant que je vais aller retrouver le journaliste ou la journaliste pour l'agresser dans ses messages privés
bien
en
sûr.
Lui disant grosse conne ou gros con, t'as rien compris à la vie, tu es mm-hmm. tout bien trop con pour comprendre la réalité. Enfin, voilà. Bon, ça, c'est ce qui s'est passé, c'est ça le cyberharcèlement.
Ouais.
C'est que c'est pas l'article ou c'est pas un débat de société.
C'est toi en tant que personne
voilà.
qui a été visée.
C'est
ouais.
le journaliste ou la journaliste qui est insultée.
C'est ça, ouais.
Ou voilà, moi, on m'a dit que j'étais trop bête pour comprendre le film, que c'était une honte que la RTBF me laisse m'exprimer là-dessus. Enfin, ça a pris des grosses proportions. Que j'étais hystérique, évidemment. Voilà. Et puis, tous les pages de chaque média auquel je collabore ont été touchées. Donc, Axel Magazine, Les Grenades,
ah,
tout,
oui.
tous les médias, les pages Facebook. Il y avait des gens qui venaient bah, presque demander que je sois licenciée ou je
ah
ne
oui.
sais pas quoi. Donc ça a pris des proportions assez, assez folles.
Puis il y a aussi le fait que les gens sont cachés derrière leur écran. Donc c'est plus
oui.
facile
oui, hein, bien
bon,
sûr.
D'envoyer un mail ou un
c'est
message
sûr.
Facebook
ça facilite. Oui.
que d'avoir un vrai débat et d'échanger
oui.
avec quelqu'un. Et... Oui.
Tout à fait. Mais ouais. moi je vois vraiment ça comme une continuité du harcèlement de rue en fait. Dans la rue qui est un espace public, on se prend plein de remarques tout le temps. On peut tout le temps être dérangé par des hommes qui estiment qu'ils peuvent venir nous dire que... Ils nous trouvent belles, ils nous trouvent charmantes, donne-moi ton numéro, blablabla. Et puis en fait, quand on est sur Internet, c'est aussi tout le temps des remarques en
ça,
fait,
ouais.
qu'on n'a pas demandé. Mais je n'ai pas demandé pour un article que j'ai écrit sur mon ordinateur tranquille,
ouais,
que d'un
sûr.
Seul coup, on vient de m'agresser dans mes messages privés.
De manière générale, est-ce que les réseaux sociaux n'exacerbent pas justement les sujets polémiques? Parce que justement, j'avais l'impression que ça a tendance à faire un effet un peu boule de neige avec les partages, avec les... Et donc, c'est souvent malheureusement dirigé contre les femmes et les minorités.
Oui, mm-hmm. le problème, c'est qu'il y a des gens qui utilisent Internet d'une mauvaise manière,
oui.
qui utilisent les réseaux sociaux d'une mauvaise manière.
Mm-hmm.
On sait que MeToo, ça a été une révolution hyper intéressante en 2017, qui est passée par les réseaux sociaux. Donc,
oui.
si on a plus entendu les femmes, c'est parce qu'elles ont utilisé des hashtags, c'est parce qu'elles ont utilisé ces outils, en fait.
Oui, 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 c'est vrai.
Et en théorie féministe, on a la théorie du retour du bâton, donc le backlash. Donc, on sait que pour chaque avancée féministe, on a après un recul, comme une vague,
oui.
en fait, un
oui.
gros sac.
Mm-hmm.
On a un peu peur maintenant de se retrouver dans un retour de bâton ou un backlash par les réseaux sociaux. Et donc
ah ouais.
d'avoir des groupes masculinistes ou des groupes d'extrême droite ou qui se rassemblent via WhatsApp, qui se rassemblent sur des groupes Messenger et puis qui
mm-hmm.
peuvent plus facilement nous cibler. Parce qu'on
ah ouais.
parle de raid aussi, donc c'est-à-dire que c'est pas un ou deux mecs qui viennent mettre des commentaires. C'est parfois 15, c'est parfois 20. Donc ils envoient un lien vers le profil et ils disent à 4h du
ah
mat,
ouais,
on
okay.
va... On va tous là-dessus, quoi. Donc, on pense que ça va se passer et que ça va effectivement s'exacerber dans les années qui viennent.
Est-ce que pour toi, le féminisme doit obligatoirement passer par l'éducation? Est-ce que c'est pas le plus important?
Ah oui, si, si. Bah, l'éducation, ça, c'est... Il y a eu tout un questionnement entre des féministes qui, elles, continuent à penser, par exemple, que la prison et que les amendes, c'est important. Et donc,
mm-hmm.
plus de lois, plus d'amendes plus graves, etc. Et puis, il y en a d'autres qui disent, oui, ben, quand ils sortent de prison, peut-être que les femmes ont été protégées le temps que cet homme violent, par exemple, a été en prison.
Oui.
Et donc, c'est bien, mais quand il en sort, est-ce qu'il a appris quelque chose? Est-ce qu'il ne s'est pas plus radicalisé? Est-ce qu'il n'est pas plus en colère? Est-ce que quelqu'un lui a parlé? Est-ce qu'il a vu un psychologue? Et donc, il y a tout un questionnement par rapport à, on les met juste en prison, on leur donne une amende. versus est-ce qu'il ne faut pas plutôt les éduquer, en fait,
oui.
et travailler avec eux, essayer de voir s'il y a moyen de, même en amont, c'est-à-dire les petits garçons, les petites filles dès la maternelle.
J'allais y venir,
oui. Faire en sorte que les petits garçons, par exemple, assument leurs émotions, qu'ils sachent qu'ils peuvent pleurer, mm-hmm. et que les petites filles sachent qu'elles peuvent être en colère, qu'elles ont le droit d'être en colère aussi, ouais. qu'elles, c'est pas que les larmes et la fragilité, qu'il y a aussi une colère quand on est fille ou quand on est femme, et qu'on a le droit de l'assumer. Et puis les petits garçons, ils ont aussi le droit d'être tristes, ils ont aussi le droit de dire, et ça veut ouais. pas dire qu'ils sont fragiles, et c'est pas grave en fait d'être fragile, c'est pas une insulte. Enfin voilà, donc il y a plein de choses qui peuvent passer par l'éducation, et très très tôt.
Alors, je te donne un exemple hein, qui vient un peu de mon vécu. Donc mon fils Louis, 5 ans, à découvrir les petits poneys. My little pony, my little pony. Regarde, les poneys, ils ont une corne. Ça sert à quoi la corne?
Bah, c'est pour faire de la magie.
Mais c'est des licornes alors, c'est pas des poneys.
Bah si. Déjà, elle doit pas être là. Elle doit être la toute dernière. Comme c'est la chef. Lui, je sais pas comment il s'appelle, mais c'est une amie. Mais c'est un ami de...
C'est monsieur.
C'est celui qui donne cours à Rainbow Dash, et ça c'est Rarity, et ça c'est Twilight.
Ah.
Mais je sais pas comment il s'appelle, il a qui ben. C'est pas pour les kinés, là.
Il a une seule aile, oui, il va avoir du mal à voler, il va souvent se porter mieux. Alors, il se fait que plusieurs personnes, famille, amis, ont débarqué à la maison pendant que lui regardait le dessin animé des petits poneys, et ils ont eu la réflexion, bah, lui, regarde pas ça, c'est pour les filles. Alors j'ai vu dans les yeux de mon fils qu'il ne comprenait pas, et je me suis senti assez mal, assez triste, donc j'ai dû intervenir, dire « Ah, c'est cool les poneys, etc. » et dire discrètement derrière « Arrêtez de lui dire ça. » Et à la garderie de l'école, c'est un peu pareil, le matin, il y a une table avec des petites voitures et une table avec des petits poneys. Bon, j'avoue, je suis assez fier de voir que Louis s'assied aussi bien aux petites voitures qu'aux petits poneys pour aller les brosser, mais ils sont pas des masses de petits mecs à le faire. Tout comme les filles ne sont pas si nombreuses à venir s'asseoir à la table des petites voitures. Alors je me demande s'il n'y a pas un rôle à jouer vraiment pour ces petits détails-là, quoi. Est-ce que ça ne part pas de là, de la part des parents, de la part des éducateurs,
hein? Oui, si, bien sûr. Et c'est fondamental. Après, je ne saurais pas en dire plus sur l'enseignement. Je crois qu'il y a quand même... ma sœur est prof maternelle, et donc elle a quand même eu des cours sur comment ne pas genrer les jouets, ouais. par exemple ne pas faire un espace bleu, ne pas faire un espace rose dans sa classe, mm-hmm. Ne pas séparer les jouets, donc ça c'est les jouets filles et ça c'est les jouets garçons,
ouais.
faire un bac avec tous les jouets dedans en fait, et l'enfant ça. Choisit en fonction de ce qu'il a envie, avec quoi il a envie de jouer.
Ouais.
Donc ma sœur m'explique très bien ça, et elle le fait dans sa classe, elle l'applique dans sa classe, mais avec les autres professeurs, c'est pas aussi simple, mm-hmm. et il y a plein de remarques de la part des professeurs, dès qu'un enfant dévie de la norme, pour le ramener dans la norme.
Ouais.
Ce qui énerve ma sœur, par exemple. Et moi aussi, du
ouais,
coup,
ouais.
quand elle me le raconte. Mais donc, on voit que l'école, c'est encore un endroit où les normes vont très vite s'appliquer, où un petit garçon qui porte du rose, par exemple, va se faire moquer, une petite fille qui joue aux voitures, elle va se prendre des remarques, parfois des professeurs, mais surtout des autres élèves. Et donc, très vite, pour rentrer dans la norme, pour ne plus avoir de remarques, les petits garçons vont plus mettre de rose et les petites filles vont jouer avec les poupées, quoi. Parce mmh. qu'on a envie d'avoir la paix et qu'on a pas envie d'être harcelé et que voilà. Donc il ouais. Y a très vite cette entrée, cet ancrage de la norme qui est voilà, patriarcale, qu'une petite fille c'est ça et un petit garçon c'est ça. Et donc c'est très triste. Et ça va très tôt. Hein. À 3-4 ans, il
ouais.
Y a déjà une différenciation qui est claire.
Ouais. Et si je continue mon exemple de poney, dans le film des poneys, justement, je trouve que les rôles masculins sont principalement ceux des méchants.
Ah ouais.
Et il y a très peu de poneys mâles aussi. Alors, est-ce que l'industrie du divertissement et du jeu ne pousse pas justement les enfants à choisir un camp en créant des dessins animés, des jouets axés filles et des dessins animés, des jouets axés garçons?
Ouais. Oui, ils vont dire que c'est ce que les enfants veulent et qu'ils s'adaptent au public et que voilà, et puis qu'ils sont là.
Ouais.
Qu'il y ait une consommation et qu'on achète leurs produits et que ouais. donc bon, ils vont avoir un discours comme ça. Mais oui, c'est évident, les jeux vidéo aussi, c'est un lieu mmh. horrible quand on regarde comment sont représentées les femmes, comment sont ouais. représentés les garçons. Les hommes sont tout en muscles, en armure, et ils ont 14 flingues mmh. et ils dessinent tout ce qui bouge. Et les meufs, on dirait qu'il n'y a plus de place pour faire des costumes, elles sont en moitié à poil, elles mmh. ont des seins énormes, on se demande comment elles arrivent à exister, être vivantes et respirer en fait avec ce truc. Donc il y a une exacerbation comme ça dans l'industrie du divertissement et dans les films, on y revient aussi à Tarantino parce que les rôles
tout
dans les
lié,
films,
hein,
tout est lié, c'est un système global.
J'ai remarqué aussi dans les bandes dessinées de mon enfance, que j'ai exhumé du grenier, que j'ai lu à mes enfants, il y a des passages, c'est juste pas possible quoi. Bon, si on prend la Schtroumpfette, on sent que Peyo joue à fond sur les clichés, il le fait souvent avec humour, donc bon, ça passe encore, mais alors quand on relit par exemple Astérix, je pense particulièrement à la Rose et le Glaive de Uderzo, on a l'impression qu'on nous crie à chaque page qu'une femme est incapable de prendre des responsabilités, qu'elle sort des tournes à la vue de vêtements.
C'est affreux, Obélix, j'ai frappé une femme. Ça, c'est sûrement moins amusant que de donner des baffes à un Romain. J'ai honte, Obélix, comment ai-je pu en arriver là? Et entre nous, si c'était la belle Falbala, tu ne serais pas arrivé là, n'est-ce pas?
Quand on parcourt les passages de Bob et Bobette, où Bob demande à Bobette de faire la vaisselle pendant qu'il pilote le gyronef avec l'ambic...
L'amour, toujours l'amour, enfin Bobette, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. Nous les femmes, si, mon cher.
Enfin, moi, tout ça, ça me met mal à l'aise. Donc, qu'est-ce qu'il faut avoir comme attitude? Il faut édulcorer les passages, il faut ne plus lire ses livres, il faut accompagner la lecture pour expliquer à son enfant. Tu ferais quoi, toi?
Pas la censure. Enfin, je trouve que censurer, c'est dommage. Mais par contre, avoir un discours critique autour, ça, c'est intéressant aussi pour montrer que on a pensé comme ça et ça nous dérangeait pas. Et peut-être qu'aujourd'hui, il y a un truc qui bouge. Et ça, c'est quand même rassurant de se dire bon, allez, on rame. Mais maintenant, quand même, il y a certains discours qui passent plus difficilement ou en tout cas qui nous mettent mal à l'aise. Et c'est bien, moi, je trouve. Ouais. Et il faut pas avoir peur de ce malaise parce que c'est très bien qu'il existe, c'est très bien qu'il soit là. En tant que militante, on essaye qu'il soit un peu là plus souvent, ce malaise, mais c'est pas pour qu'il y ait de la censure ou pour qu'on dise c'est horrible, au bûcher, tous ces livres, il faut plus les lire, etc. Par contre, l'accompagner d'un discours critique et l'entourer d'un discours critique, ça c'est intéressant.
Alors attention spéciale quand on lit dans la presse. Quand on lit dans la presse que remplacer père et mère sur les formulaires administratifs par parent 1, parent 2, ça inscrit dans une volonté d'effacer toute référence à la manière dont est conçu un enfant, ça t'inspire quoi?
Et voilà, je disais que une grande partie de la production médiatique de mes confrères et mes consoeurs journalistes est dure pour moi. C'est un peu ça. Ouais. C'est-à-dire que ça me fatigue. Mais ça revient de nouveau, je pense, à des réactions de protection et de résistance au changement et de pas se rendre compte qu'en fait ce qu'on écrit est un peu étrange en 2018, 2019, 2020, c'est pas si grave en fait de dire parents, qu'est-ce qui est inquiétant là-dedans?
C'est très bien. Quand on lit dans la presse que...
Non.
Si, c'est un spécial, hein. Le féminisme actuel dans les médias ou sur les réseaux sociaux rate sa cible parce que les harceleurs et misogynes n'accordent aucun respect à la vie des femmes, encore moins à leurs paroles, pendant que les hommes qui considèrent les femmes comme leurs égales entendent tous les jours qu'ils sont dans le corps des prédateurs obsédés et violents. Ces derniers se pensaient gentils, mais commencent à douter d'eux, comme à l'aéroport au moment de la fouille, où même si on n'a rien d'interdit, on ne se sent pas bien. Ça t'inspire quoi?
Oh, les pauvres gentils hommes qui ont peur, qui sont harcelés. Sur le contenu, je pense que quand on dit les hommes, c'est le groupe social homme. Et comme je pense effectivement que les hommes ont un rôle à jouer qui est important, parce que effectivement, la parole des hommes, elle est, on le sait, plus entendue, plus entendable. Mm-hmm. Et donc, quand il y a des blagues sexistes, quand un pote fait une remarque sur une femme qui passe, par exemple, ça peut aussi être la responsabilité de l'homme de dire bah non, on ne dit pas ça. Parce que nous, on n'a pas accès à ce genre de discours, parce que quand une femme est là, ou quand il y a des femmes dans le groupe, quand les copines sont là, par exemple, c'est pas aussi facilement que ça sort. Donc il y a aussi plein de choses qui se passent entre hommes. Donc c'est vrai que il y a cette idée aussi de responsabiliser les hommes, mais je ne suis pas sûre que les discours féministes empêchent... Enfin, je pense que les hommes qui sont vraiment alliés des féministes, ils ne sont pas contre les discours féministes dans les médias ou sur les réseaux sociaux, ça les nourrit aussi. C'est-à-dire qu'ils vont aller les lire, qu'ils vont être d'accord avec, qu'ils vont pas avoir de résistance par rapport à ça, qu'ils vont pas remettre en cause la parole des femmes, et donc que ça va leur permettre d'être nourris et d'avoir des arguments aussi à pouvoir avancer quand ils en ont besoin.
Ouais.
Donc je ne pense pas que les discours féministes les agressent les hommes gentils. Par contre, oui, ça peut agresser les mecs qui sont encore très misogynes et qui sont pas d'accord avec le fait que les femmes expriment des arguments féministes ou des idées féministes dans les médias ou sur les réseaux sociaux.
Quand on lit dans la presse...
Mais
ah si, il y en a encore, il y en a deux. Quand on lit dans la presse qu'il faut supprimer le terme « mademoiselle » de la langue française, car ce terme sexiste dit à une femme qu'elle n'est pas pleinement accomplie tant qu'elle n'est pas mariée. Ça t'inspire quoi?
Ben ça, moi, je suis d'accord.
Tu vois, il n'y a pas que...
Non, ça, c'est bien.
J'ai pris un peu de tout.
Allez, je pense que la langue, ouais. De nouveau, comme le divertissement, comme tout ce qui peut sembler plus symbolique, ne l'est pas. Il n'y a pas de symbolique, il n'y a pas de petite violence. Je pense que, de nouveau, c'est un continuum de violence qui est fait aux femmes. Et il n'y a pas de mot pour un homme qui n'est pas marié. C'est monsieur et monsieur, en fait. On s'en fiche.
Ouais, on n'est pas mon damoiseau.
Non. Ça semblerait bizarre.
Voilà.
C'est un peu désuet comme oui. expression. Voilà. Ben voilà, mademoiselle.
C'est pareil.
Ça fait le même effet quand mm-hmm. on se le prend. Et puis, d'un seul coup, il y a beaucoup de femmes qui peuvent parler du passage du mademoiselle au madame. Ce truc de « Ah, maintenant, j'ai l'âge d'être mariée ou je suis vieille, en fait.
Enfin, » ouais.
Donc, pourquoi, en fait, est-ce qu'on vit ça? Et pourquoi est-ce qu'on ouais. se pose des questions sur « Est-ce que j'ai des rides? Est-ce que j'ai une bague? Non. Qu'est-ce qui se passe ?» Et c'est déjà problématique ouais. aussi. Donc, qu'on nous appelle madame, tout simplement, et que ce soit pas quelque chose pour une femme âgée ou mariée, c'est juste qui on est, et puis voilà, bonjour madame, c'est tout.
Quand on lit dans la presse, c'est le dernier, je te promets, que la galanterie, qui veut qu'un homme tienne la porte à une femme, ou l'aide à porter sa valise, est du sexisme bienveillant, que les hommes utilisent pour maintenir une domination sur les femmes qu'ils pensent faibles. Ça t'inspire quoi?
Oui, là, je suis de nouveau d'accord. La galanterie, c'est un peu étrange. Moi, j'aimerais bien qu'on tienne la porte pour toutes les personnes qui en ont besoin. Si c'est un homme qui passe derrière, si c'est une personne en situation de handicap, on tient la porte, en fait. C'est... Mmh. Il n'y a pas besoin que parce que c'est une femme, il faut faire autre chose. Moi, je sais ouvrir une porte, je sais fermer une porte. Ce truc de fragilité totale, de « Oh là là, c'est une femme, il faut lui ouvrir sa porte. » Et j'avais un prof à l'UNIF qui nous avait expliqué que les hommes faisaient ça pour mater les fesses, en fait. Et que donc, c'est aussi pratique pour pouvoir mater quand la femme passe devant. Et que donc, voilà, la galanterie, ça servira à ça. Donc, depuis, super. Ça m'a encore plus radicalisé sur la galanterie. Ouais. Non, merci, c'est gentil, j'ai envie.
Est-ce que parfois, le fait de se lancer, mais je pense que tu as déjà un peu répondu, hein, dans des combats sur certains détails, comme tout ce qu'on vient d'évoquer, ne dessert pas la cause, surtout quand ces polémiques sont exacerbées sur les réseaux sociaux et les médias? Ou est-ce que pour toi, c'est vraiment important de mener un combat sur chaque détail?
Ouais, ben, je pense qu'il n'y a pas de détails. C'est ça, en fait.
C'est ça, ouais.
C'est qu'une fois qu'on regarde la société dans laquelle on vit, on se rend compte que c'est un système, que ça passe par la langue, par les jouets, par le cinéma, par l'IBD, par les rues, comment nos rues sont construites. Comme c'est un système, de l'insulte sexiste au féminicide, il y a un degré de gravité, évidemment, entre l'insulte et le meurtre, mais c'est un système. C'est lié, en fait. Le fait qu'on puisse insulter les femmes, c'est qu'on puisse les contrôler, et c'est que quand elles veulent rompre, ce qui est souvent la situation et le contexte des féminicides, ben je la tue parce qu'elle m'appartient, elle est mon objet en fait. Et donc considérer les femmes comme des objets, pas comme des sujets à part entière, tout est important. Et il n'y a pas des choses, on doit dire « Ah mais pourquoi est-ce qu'elle nous énerve encore avec mademoiselle ou avec la langue alors qu'il y a des vraies choses plus graves comme l'inégalité salariale ?» Non, en fait, tout est imbriqué. Et donc une fois qu'on tire un fil, on a 14 autres fils qui apparaissent et sur lesquels on doit aussi s'informer et regarder et peut-être militer quoi.
Ouais.
Donc voilà, il n'y a pas de détails, je pense, en féminisme.
Quand on voit par exemple passer une affiche pour un rassemblement anti-nucléaire et féministe en mixité choisie sans hommes cisgenres, donc cisgenre c'est ce qui est en accord avec le genre de sa naissance, est-ce que ça ne dessert pas la cause en rejetant les hommes? Mais j'imagine que c'est pour éviter que certains énervés peut-être ne débarquent, mais est-ce que la communication n'est pas parfois maladroite?
Je pense pas, je pense que la non-mixité c'est un outil intéressant,
oui.
Parce qu'il y a des choses qui sortent. Qui ne sortiraient pas s'il y avait des hommes.
D'accord.
Par exemple, quand des travailleurs s'organisent, ils n'invitent pas le patron à la table tout de suite. D'abord, ils s'organisent avec le syndicat,
ouais.
et puis le patron vient après dans la discussion.
Ouais.
Je pense que c'est une non-mixité, en fait. C'est une non-mixité de classe, et voilà. Et c'est moins questionné que la non-mixité. Mais c'est pareil, en fait. On n'a pas dit qu'on veut créer des sociétés à part où il n'y a que les femmes qui vivent et les hommes sont exclus pour toujours.
Mmh.
On a dit qu'on veut faire des manifestations et des réunions en non-mixité choisie. Et c'est important. Et aussi parce que, par exemple, comment parler de viol quand il y a des hommes qui sont présents, par exemple? C'est moins facile.
Je pense aussi à l'histoire de charge mentale qui serait exclusivement réservée aux femmes. Pour rappel, la charge mentale, c'est avoir en permanence en tête la préoccupation des tâches domestiques et éducatives. Je sais pas qu'il y a certains hommes qui sont sentis parfois niés ou ont dénoncé cette vision qui ne correspondait pas à leur quotidien. D'un autre côté, les statistiques montrent que la mère conduit et va rechercher plus souvent les enfants que le père. Elle s'occupe du bain, des devoirs. Donc, est-ce que la solution, ce serait pas de nuancer davantage, de ne pas essayer de monter les mamans contre les papas, tomber dans le cliché les hommes tous les mêmes, ou est-ce que le sujet qui nous occupe nécessite forcément une communication radicale, étant donné sa gravité, et tant pis pour les pères qui s'impliquent ?
Je suis pas sûre que ce soit tant pis pour les pères qui s'impliquent, mais on sait que en Europe et en Belgique, les hommes s'impliquent peu dans les tâches ménagères. Mmh. Et ça, il faut pouvoir le dire, et ça, c'est une réalité. Et nous, on se rend compte aussi, même en tant que féministes, dans nos couples, que très vite, on reprend des habitudes où c'est nous qui allons faire la vaisselle, où c'est nous qui allons passer l'aspi, et on est là, mais pourquoi on fait ça ? Très frontalement, mais moi, je trouve ça important frontalement. Après, les questionnements qui émergent, les débats qui émergent, c'est très bien. Et ouais, on peut se sentir touché ou remis en question, ou voilà. Mais voilà, c'est pas le but du féminisme aussi, c'est pas de toucher spécialement les individus, c'est aussi de poser des questions collectives et de dire tiens, collectivement, il y a ça qui se passe, voilà les chiffres, voilà autant de témoignages de femmes, c'est pas une lubie qu'on a, c'est une réalité, donc qu'est-ce qu'on fait maintenant collectivement ? Donc peut-être que quelques individus vont pas bien se sentir par rapport à ça, ils vont dire bon ben moi en fait je fais ma part et mmh. Et voilà et c'est bon et donc ça ne me concerne pas, mais en fait cet individu là ou cet homme là vit dans une société où il est vraiment une minorité, donc qu'est-ce qu'on fait pour ça, que ouais. ça on sorte de ça quoi. Donc l'idée c'est pas non plus de tout ramener aux individus, mais aussi de se dire collectivement il y a un problème collectivement et donc on vit dans cette société, on en fait partie. Mm-hmm. Qu'est-ce qu'on fait collectivement contre ça?
Merci. Est-ce que tu as quelque chose que je ne t'aurais pas demandé, dont tu voudrais parler ou quelque chose à dire?
Non, c'est bien, c'est super complet. Bah. Le cinéma harcèlement, la collective, le journalisme avec les chouettes phrases. C'était bien.
Et ben voilà, bah écoute.
T'as bien travaillé.
Merci beaucoup.
Merci.
Merci à toi.